se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein ?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, bougez plus.
RMC, l'invité des grandes gueules.
On va en parler avec quelqu'un qui a été patron de société dans l'univers du jeu vidéo, qui est ensuite devenu député et qui maintenant s'occupe de France 2030. C'est Bruno Bonnel qui est avec nous.
Bruno Bonnel, bonjour.
Bonjour.
L'industrie française n'est pas morte. La preuve, on est au cœur de ce salon Global Industrie. Non seulement elle n'est pas morte, mais elle est en train de renaître, c'est ça ?
L'industrie française n'est pas morte. L'industrie française est en pleine transformation. Moi, ça fait deux ans que je m'occupe d'un plan de 54 milliards d'euros qui est décidé à l'innovation. Et on voit bien que dans l'hydrogène, dans le nucléaire, dans la biofermentation, ça, les nouvelles manières de produire, il y a énormément d'initiatives. Donc, vive l'industrie française.
Mais on a un problème, c'est que, comme dans d'autres secteurs d'activité, on n'arrive pas à recruter le personnel nécessaire. Il y a 200 000 postes à pourvoir. Des postes bien payés, des CDI d'ailleurs. Pourquoi l'industrie française a du mal à capter notamment les jeunes ?
Parce qu'on est resté très 19e dans notre vision de l'industrie en France. L'industrie en France, c'est Zola. C'est une espèce de désespérance. Les usines sont perçues comme étant sales alors qu'elles sont nickel. Les horaires comme des horaires de bêtes de somme alors que dans la réalité ils sont aménagés. Les salaires miséreux alors qu'ils sont par rapport à d'autres, notamment le service, ils sont très satisfaisants. Donc au contraire, il faut pousser les jeunes vers l'industrie. On a des difficultés, il faut qu'on se relève les manches parce que tout le monde veut changer le monde, hein. Tout le monde veut faire de l'écologie, etc. Ça passe par l'innovation dans l'industrie, mais il faut aussi se relever les manches.
C'est pas une question de formation aussi ? Et d'orientation scolaire ?
Mais la formation aujourd'hui, c'est, par exemple, pour France 2030, c'est 2 milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour ouvrir des nouvelles écoles, je l'ai dit, dans l'hydrogène, dans le nucléaire, dans les nouvelles formations écologiques, dans la décarbonation. Donc, là, sur ce point-là, je pense que là, l'offre française, elle est exceptionnelle. Ça sera d'ailleurs probablement à 2030 une des clés de notre réussite. C'est 1 million de nouvelles formations qui seront à 2030 financées par ce plan. Donc, c'est une question de changer la tête des jeunes
et en disant, mentalité.
Venez voir.
Justement, j'ai une question. Quand on est jeune et qu'on est soucieux de la cause écologique, quel débouché professionnel on a dans l'industrie ? Parce que c'est vrai que l'industrie, c'est un mot qui est vague et qui veut peut-être pas dire grand-chose. Quand on a envie de s'orienter dans le secteur de la transition écologique, c'est quoi très concrètement les métiers qu'on peut faire ?
Prendre conscience que la nouvelle énergie qui est l'électricité, c'est la décarbonation, c'est moins d'empreintes carbone. Donc tous les métiers qui ont quelque chose à voir avec soit la production électrique, soit la mise en place de nouveaux processus industriels à base d'électricité, c'est un boulevard. Je vous donne un exemple. Dans les Hauts-de-France, un grand groupe, ArcelorMittal, décide de enlever ses hauts fourneaux et de faire de l'acier qu'on appelle décarboné à partir d'électricité et des nouvelles technologies. Formidable. De la recherche, de la mise en place, de la maintenance, de la construction. Tout ça avec moins 20% d'empreinte carbone quand on fabrique de l'acier. C'est là-dessus qu'il faut emmener les jeunes. Sur l'industrie, c'est une solution pour l'écologie.
J'ai visité ArcelorMittal justement il y a quelques semaines. Je suis dunkerquois et donc moi, quand on parle d'industrie, j'ai plein d'amis qui travaillent dans l'industrie.
Tu m'as dit qu'ils étaient bien payés.
Et ils sont bien payés. Depuis la plage, on voit notre port, c'est notre fierté, l'industrie. Et on voit le changement, etc. Moi, je pense vraiment que les acteurs publics ne sont pas ceux qui font l'industrie, mais que les acteurs publics ont une responsabilité pour mettre en place les conditions de la réussite. Vous l'avez dit, la formation. Je trouve encore que les acteurs publics sont un peu frileux sur la formation de...
À 2 milliards, ça fait quand même frileux. Alors, moyen frileux, moi, je trouve.
Ça met du temps à changer. C'est-à-dire que les formations ne sont pas encore évidentes, mais ça change. Il y a aussi la question des infrastructures, notamment des infrastructures de transport. Moi qui suis dunkerquois, j'espère le fameux canal Seine Europe qui va arriver vers le port de Dunkerque, mais on cherche encore les financements. Et puis surtout, c'est le contexte fiscal qui constitue une difficulté encore pour que des industries s'implantent dans notre pays. Et donc là-dessus, moi j'ai envie de vous entendre. Je suis comme vous, je sais qu'on a plein d'industries innovantes. Mais est-ce que les acteurs publics font suffisamment pour leur donner les conditions de s'épanouir ?
Comme vous êtes dunkerquois, vous connaissez le coin et vous savez que c'était un territoire en désertion totale, une catastrophe.
Je suis d'accord.
On parle on parle plus de friche là, on parle du Sahara, de la friche.
Ouais,
c'est
pas
non, c'est la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il y a eu, par la volonté du maire de l'époque, monsieur Vergritte, qui est maintenant ministre du transport, justement, que vous évoquez aujourd'hui, donc il connaît bien le sujet, une volonté de mettre en place, par la volonté de l'État, qui a mis en place des 17 000 postes dans les nouvelles industries, dans le Dunkerquois. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Ils annoncent même 20 000 localement.
Eh bien, vous voyez, c'est encore mieux. J'attends de voir. Tant mieux. Non, mais vous attendez de voir. Moi, je le vois tous les jours. Donc, je peux vous dire
que... Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Hein. Les gens ne le voient pas.
Mais quand vous construisez une usine, c'est en une semaine ? Non.
Non, je suis
d'accord. C'est en plusieurs années. Donc, attendons de voir dans quelques années. En tout cas, je visite ces usines, je visite ces chantiers. Et déjà, sur ces chantiers, il y a de très, très nombreux postes. Mais allons de là. Vous avez raison, c'est la poule et l'œuf. Ça va réaménager le territoire. Et cette plage que vous aimez bien, dans laquelle on voit le port, moi je veux qu'elle soit décarbonée en plus. Donc moi ça veut dire qu'en plus il va y avoir des logements net zéro. Il y a 12 000 logements qui sont lancés en construction d'ici 2030 sur le Dunkerquois. Mais donc je pense que
ils vont
la dynamique elle est là.
Avec zéro artificialisation nette des sols, c'est aussi un petit peu contraire quoi.
Écoutez, il y a plein de solutions là-dessus. On peut effectivement réinventer des solutions de reconversion de bureaux. On peut réinventer des solutions en élevant un peu plus un certain nombre de bureaux. Mais il y a de la place en plus
dans
le Dunkerquois.
Mais le coût du travail, parce que ce qui a tué notre industrie aussi, c'est qu'à un moment donné, ça coûtait trop cher chez nous de continuer à produire. Alors effectivement, il y avait l'image, on voulait sortir, on voulait aller tous dans les services, etc. Mais il y avait aussi ce problème du coût du travail. On en parlait à l'instant sur le textile. Bon, certes, Emmanuel Macron a fait plutôt une politique de l'offre. Mais quand même, il y a encore du travail à faire là-dessus. Vous le savez bien. Maintenant, vous n'êtes plus député. Vous êtes libre de dire les choses.
Ah, mais moi, je suis libre de dire les choses. Je dis, faut qu'on fasse un choix. On ne peut pas raconter deux histoires à nos citoyens. C'est... On dit oh là là, les charges sont incroyables, c'est impossible. On a un modèle social en France.
Oui, mais il faut le réformer.
Est-ce qu'il est perfectible? Certainement. Est-ce que du jour au lendemain, je mets au défi n'importe quelle formation politique de dire ah ben vous savez quoi, on change tout. Vous savez, on va tout changer. En fait, maintenant, les gens individuellement vont se débrouiller pour leur hôpital. Ça sera comme en Angleterre. Parce que aller travailler en Angleterre, le coût est effectivement plus bas. Mais la réalité, c'est que derrière, vous payez vos mutuelles, vos hôpitaux.
Si on est mieux payé,
vous n'avez pas plus de pouvoir d'achat.
Vous n'avez absolument pas le pouvoir d'achat.
Ça dépend du salaire qu'on a.
Le problème essentiel, c'est qu'on est sur des industries nouvelles et du jeu vidéo. C'est un domaine que je connais un petit peu, aussi moins bien que vous, mais que je connais. On parle de domaines où pas mal, on peut produire et consommer sans sortir de chez soi. Et le chez soi, c'est pas forcément en France. C'est parce qu'on est sur un marché mondial. Et est-ce que ces 200 000 emplois qu'on n'arrive pas aujourd'hui à pourvoir, est-ce que c'est pas par le fait qu'on n'a pas d'attractivité par rapport à ces gamins qui sont partis ailleurs et qui vont ailleurs? Et justement, je rejoins Olivier sur le fait du coût social du travail. On l'a vu dans le jeu vidéo. La France, on était leader pour tout ce qui est effets spéciaux, on est les plus forts au monde. Mais pourquoi est-ce que tous nos créateurs finissaient aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'on s'est fait piller toute notre intelligence, toute notre créativité par des mecs hors normes qu'on a eus? Pourquoi sont-ils tous partis aux États-Unis ou à l'étranger? On n'était pas capable de les garder. Et c'est pas que pour des raisons climatiques.
Écoutez, là-dessus, moi, ma réponse, elle est simple. On va pas transformer 40 ans de renoncement en 5 ans. Et il est clair qu'on est en plein aujourd'hui dans le boulot. Vous le voyez, vous m'avez pas encore posé la question du déficit public, mais vous brûlez les lèvres.
On va y arriver.
Non, mais évidemment, et je serai tout à fait ravi d'y répondre. Je dis simplement, il y a un moment donné, on a retourné la chaussette. Il y en a marre de subir, il y en a marre d'être résigné, il faut y aller. Je suis d'accord sur cette remarque. Mais formons plus de jeunes. Il y en aura.
Oui, mais on est sur un marché mondial. Mais donc on va former pour le monde. Et si à côté de ça, on ne fait pas en sorte que, face au marché mondial, on soit concurrentiel et qu'on puisse les conserver, on va former pour les autres pays.
Voilà, donc on ne fait plus rien. Donc on s'arrête.
Non, mais on analyse, on essaie de trouver des solutions.
On va juste faire de la décroissance. Alors, on était dans le toujours plus. Maintenant, on veut le encore moins. Moi, je vous propose le beaucoup mieux. Vous voyez, elle est simple, ma phrase. Je pense qu'elle est comme
des
ça.
Formules,
qu'il faut faire. Non, c'est pas du tout une formule.
Tout le monde est
d'accord. Quand on produit mieux.
Enfin, sauf les décroissants, mais on les entend pas beaucoup en ce moment, les décroissants, parce que, avec le dérapage du déficit.
C'est tellement binaire comme raisonnement.
On voit qu'il n'y a plus de croissance. On voit ce que ça donne. Il y a moins d'argent pour les hôpitaux, l'école, la sécurité.
Vous transpirez le macronisme, monsieur.
Ah ben, vous savez, il y a des gens qui se renient pas. Il y en a beaucoup qui se renient. Des gens qui se renient pas. Et en ce qui concerne
le macronisme, c'est un peu plus compliqué. Alors, je pourrais rebondir sur la décroissance, mais moi, j'ai une autre question à vous poser. Je tourne la tête à droite, à gauche, et je vois que des hommes. Il y y a peut-être maximum 5% de femmes autour de nous. Par ailleurs, j'ai une amie qui a rejoint une entreprise d'hydrogène que vous connaissez peut-être et qui m'a dit c'est l'enfer déjà. Bon, je travaille qu'avec des hommes, mais ça, je le savais en arrivant. Mais ensuite, la culture, les codes de l'entreprise sont hyper excluants. Je vous donne juste un exemple. Ils ont voulu organiser un dîner de gala pour fêter je ne sais quoi. Et le dress code, c'était les femmes en robe longue. Elle m'a dit on est en 2024, moi je mets un jean et on va pas m'emmerder. Comment, quand on est une femme aujourd'hui, on peut avoir envie de travailler dans cet univers qui se remet pas en question, cet univers de l'industrie qui est pas inclusif, qui est trop masculin? Et comment on fait pour attirer les femmes? Parce que moi, si je suis étudiante et que je me balade ici, parce que je vois des étudiants, j'imagine qu'il y a des partenariats avec des lycées ou des écoles supérieures, il y a 6000 jeunes qui se baladent, je les vois autour de nous. Moi, je suis une jeune en terminale qui doit choisir son orientation cette année, je me balade ici, je suis pas sûre de faire ce choix, le choix de l'industrie.
Alors il y a à peu près 12% de femmes dans l'industrie, ce qui est ridicule, ouais, par rapport à d'autres pays. Si vous regardez les pays d'Europe du Nord, c'est 50%.
Quels sont les freins?
Les freins, ils sont un, à l'école. On forme les jeunes filles à ne pas s'orienter vers des métiers industriels, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réformer. Les sensibilisations par des stages, par exemple, peuvent aider.
Changer les mentalités.
La deuxième, c'est qu'il y a une grande nouvelle, c'est que par contre, il y a beaucoup plus de femmes dans les industries qu'on appelle de la vie. C'est-à-dire toutes les industries de l'environnement, les industries de la santé. Là, au contraire, on a un intérêt supplémentaire de femmes. D'ailleurs, elles vont faire des études scientifiques dans ces directions-là. Donc il faut, d'un côté, réenchanter un petit peu le monde industriel. C'est pas gagné, je suis d'accord, c'est un boulot de longue haleine. Notre discussion en fait partie. Continuez d'affirmer. Moi, je soutiens le jean dans les soirées de gala, par exemple. Je suis d'accord, ça n'a rien à foutre dans une distinction de genre. Par contre, il faut aussi montrer que l'entreprise, justement, c'est pas réservé aux gros costauds en débardeur. Mais c'est aussi réservé. C'est pas un métier de mec. Moi, je connais des ingénieurs de grand talent. J'en ai. Au SGPI, on est à 50-50. Le secrétariat dont je m'occupe, qui s'occupe de France 2030, on est à 50-50. On voit des femmes qui sont très compétentes dans les domaines.
Mais d'une manière générale, il faut plus d'ingénieurs en France.
Alors, il faut plus d'ingénieurs, d'où les 2 milliards de France 2030 sur la formation. C'est pas rien, 1 million de personnes plus formées à 2030. C'est pas du tout rien. Et c'est effectivement plus d'ingénieurs, mais il faut aussi beaucoup plus de personnes de maintenance, des techniciens de maintenance. Il faut plus de chercheurs pour faire de l'innovation. Donc, c'est vrai que c'est un mouvement de fond. Et je l'ai encore dit, on ne va pas rattraper 40 ans.
Alors justement, les effets, on va les voir quand? De
2030.
Cette réindustrialisation, de cette relance?
Alors on en voit déjà 600 usines, c'est pas rien. En France, depuis 2017, on réouverte ou se sont construites. C'est important. Sur les deux dernières années, c'est plus de 200.
Et elles tiennent.
Et elles font des produits à haute valeur ajoutée et elles se dynamisent. Sur l'objectif de, par exemple, 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030, on est sur la route, grâce au Gigafactory à Dunkerque, mais aussi d'autres éléments, on est déjà à 1 million de sécurisés d'ici 2030. C'est-à-dire des voitures françaises électriques. C'était inconnu au bataillon il y a 2 ans. On ne savait pas. On attendait juste que les Chinois nous arrosent de produits.
On ne va pas se faire bouffer par les voitures électriques chinoises qui sont en train d'arriver en masse, BYD, etc.
C'est là que l'Europe est importante. C'est là qu'il va falloir quand même que l'Europe se décide d'être un continent responsable. Parce que c'est très sympa de dire c'est pas notre problème quand on vue de certaines frontières européennes. Mais là, il va falloir effectivement qu'on empêche cette
espèce de... Il faut une Europe qui protège mieux.
Mais il faut une entreprise.
Attendez, vous avez entendu le mot, il faut du protectionnisme.
Non, il ne faut pas du protectionnisme.
Il faut quoi?
Non. Il faut juste mettre les règles qui soient les mêmes dans le monde entier. On ne fait pas
d'organisation. On parle de souveraineté européenne, c'est du protectionnisme à l'échelle européenne.
On a du mal à le faire en Europe. Alors.
Non, mais si on parle d'organisation mondiale du travail, si on dit au-delà du commerce, pardon, excusez-moi, on doit avoir les mêmes règles pour tous. Et si les États-Unis peuvent mettre des taxes sur l'importation de certains produits français, l'Europe doit être capable de mettre des taxes sur l'importation de certains
produits français. Bruno Le Maire a reconnu chez nous cette semaine qu'il on avait été naïf lorsqu'on avait commencé à mettre des bonus écologiques sur les voitures électriques. Ça avait favorisé le marché chinois et que maintenant c'est réservé aux voitures européennes. Mais on fait preuve beaucoup de naïveté en Europe. On pense que tout le monde va jouer les règles du libre-échange non faussé, avec un modèle social partagé. Non, on est les seuls à avoir un modèle social aussi généreux, donc forcément il y a une concurrence déloyale.
Et est-ce qu'on doit en rougir? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Moi, je parlais d'histoire aux auditeurs. Est-ce qu'on doit rougir d'avoir un modèle social qui protège les concitoyens?
On ne joue pas avec les mêmes règles.
Exactement. Voilà. Et il y a des règles sur lesquelles on a choisi l'Europe. Il y a des règles sur lesquelles c'est continental et ce n'est pas simplement sur notre territoire. Et je pense que cette dynamique est en route. C'est ça le plus important. Vous voyez dans ce salon, 2300 personnes qui viennent exposer, 600 nouvelles sociétés qui viennent, 200 innovations présentées. des trucs incroyables sur comment on peut recycler de la matière plastique pour faire des routes, comment on arrive à utiliser de nouveaux matériaux. Il y a une dynamique française. Il faut qu'on arrête de se regarder en disant.
On va continuer d'en discuter.
Qu'on a quand même un modèle social qui génère la majorité des
pauvres. Une dernière question, Bruno Bonnel. Votre ami Emmanuel Macron, là, le Mozart de la finance.
Mon président, en l'occurrence.
Il nous a écrit un requiem, là, parce qu'il va laisser un pays endetté, surendetté, avec des déficits qu'on n'arrive pas à combler.
Écoutez, n'ayons pas la mémoire trop courte. Moi, je voudrais rappeler pourquoi il y a aussi des déficits. N'oublions pas qu'il y a eu plusieurs centaines de milliards qui ont été dédiés à la protection pendant le Covid. Il y a eu le renouveau avec le plan de relance de 100 milliards pour que les entreprises ne se cassent pas la gueule. Et si elles sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été là. Et aujourd'hui, il y a 54 milliards du France 2030 pour qu'on projette la France dans l'avenir. Donc, un petit peu de mémoire ferait du bien à tout le monde.
Oui,
qu'on arrête de, non, mais qu'on arrête de faire des photos instantanées.
Alors, il faut trouver l'argent où, alors, Monsieur Bonnel ?
Eh bien, il faut trouver l'argent dans la croissance, dans le développement, dans l'innovation.
On n'augmente pas les impôts ?
En tout cas, la règle de ne pas augmenter les impôts, c'est une règle souveraine depuis le début qui a rassuré tout le monde.
Ça sera difficile d'augmenter les impôts parce qu'il ne reste plus grand-chose à prendre aux citoyens.
En 2022, les entreprises n'ont jamais payé autant d'impôts.
Oui. Non, peut-être les super profits, parce qu'on va en parler dans un instant, les super profits. Parce que certains de vos amis, il y a Elbron Pivet et d'autres, disent qu'il faudrait taxer les super profits.
Écoutez, certains de mes amis pensent qu'ils ont envie de penser. Moi, je pense qu'il faut au contraire encourager l'investissement. Et si j'ai une chose à dire, c'est qu'il faudrait par contre donner un critère d'investissement privé à côté de l'État dans ces innovations. Là, c'est à la traîne. Là, c'est dommage que les industriels français, que les fonds d'investissement ne mettent pas d'argent privé à côté de l'argent public que nous versons aujourd'hui pour soutenir l'innovation.
Merci Bruno Bonnel. Merci d'être passé voir les GG, secrétaire général de France 2030.